Bonjour, je m'appelle Sylvain Desmentis. Vous écoutez le Club Desmentis. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Karine Aboukinos. Bonjour, Karine.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ça va super bien. C'est hyper artificiel parce qu'on se parlait avant puis on s'est déjà dit bonjour. Mais c'est comme ça à la télé aussi. On est quasiment pro. Aujourd'hui, on va se parler du. En fait, c'est la conclusion de la deuxième trilogie des Chroniques de San Francisco. Je le dis comme ça parce que oui, c'est une série, mais ça file vraiment, ou en tout cas, on va s'en reparler, mais ça file vraiment comme une conclusion. Et ce tome-là, donc, s'appelle d'un. Non, j'allais dire d'un bord à l'autre. C'est Sure of You en anglais et c'est Bye Bye Barbary Lane en français. Même les Français dans la traduction, il y avait vraiment l'impression que c'était la fin. Et cela a été pendant plusieurs années, plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, on croyait que c'était le dernier tome. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que c'est un club de lecture et on prend pour acquis que vous avez lu le livre. On va pas empêcher les divulgateurs. Ceci étant dit, avant qu'on tombe dedans, là, juste vite, vite, Karine. Est-ce que tu le recommandes, ce tome-là?
Hey, Boboy. OK, soyons honnêtes. Moi, si ce n'était pas du fait que j'ai vu la série sur Netflix et que j'ai adoré la série sur Netflix et que je sais que la dernière trilogie, c'est ce qui a inspiré la série sur Netflix, si ce n'était pas du fait, si ce n'était pas de tout ça, moi, après ce tome-là, je ferais comme toutes les autres personnes qui lisaient cette série-là avec nous autres, puis j'arrêterais.
J'ai du mal, ou en tout cas, je pense que la seule façon que je peux recommander ce tome-là, c'est seulement si vous avez vraiment aimé tous les autres tomes avant. Mais vraiment comme beaucoup, là, parce que c'est un peu triste et c'est un peu en dégringolade. Bref, maintenant que notre avis, bref, a été dit, on va se permettre les divulgateurs. Et je vais commencer donc par vous dire de quoi ça parle, ce livre-là. Ben, on va retrouver dans ce tome-ci, évidemment, on va retrouver Marianne, Michael, Anna Madrigal. Dans une sous-intrigue, on va retrouver Anna Madrigal qui part en Grèce avec sa fille Mona. J'adore tes réactions. Il y a ça qui se passe. Puis, juste pour l'anecdote, là, moi, la première fois que j'ai lu ces livres-là, je les ai vraiment dévorés, là. Je pense que je les ai lus les 6 en 3 semaines, 1 mois, là. Donc, moi, dans mon souvenir, je pensais que Didi et Dore allaient arriver en Grèce, qu'elles allaient croiser Mona parce que j'avais dans la tête le festival des femmes du tome 5, c'est ça, fait, je mélangeais un peu les intrigues. Mais donc, non, ça arrive pas, il y a que Mona et Anna Madrigal qui s'en vont en Grèce et qui font un trip sur l'île de Lesbos. Ensuite, on a Michael qui est en relation avec Tak. Ça, c'est le gars qu'il a rencontré dans le tome d'avant à Alcatraz, dans une visite guidée d'Alcatraz. Et il y a beaucoup de tensions, j'ai l'impression, en fait, il y a beaucoup de tensions dans ce couple-là, dans le sens où Tak est jeune, c'est un gars qui est très militant, alors qu'on sent que Michael est peut-être un peu. Il a pris de l'âge, hein, depuis les débuts où on l'a rencontré, les premières fois où on l'a rencontré, il a pris de l'âge. Il est un peu fatigué de toujours maintenir le drapeau au bout de ses bras. Et il y a ça, donc il y a ces petites frictions-là dans ce couple-là. Et surtout, l'intrigue majoritaire de ce livre-là, c'est Marianne Singleton qui est toujours animatrice à la télé, qui est toujours mariée avec Brian. Et tous les deux, donc, ils sont toujours les parents adoptifs de Shauna. Et là, je me souviens même plus de son nom. Il y a le type. Puis ça, c'est drôle parce que c'est un gars qui est amnésique, là.
Oh my
C'est un gars qui est
God!
amnésique.
Ça, c'est une chanson que j'ai pas notée, évidemment.
Mais c'est ça. De toute façon, il se souvenait de rien quand on l'a rencontré. C'est le gars amnésique du tome 2 qui était disparu depuis 11 ans. On nous le spécifie dans le livre. Et là, il réapparaît. Il est marié, donc c'est pas un intérêt amoureux pour Marianne. Quoique, il y a des tensions un peu qui sont là. Et puis, donc, il va lui offrir une job. Il va lui offrir une émission de télévision à la télé nationale. Mais pour ça, elle doit partir à New York. Et Marianne fait face à ce dilemme-là. OK. Là, moi, je te vois. Premièrement, je veux dire bonjour à Maps, qui va nous écouter, qui n'a pas lu ce tome, mais qui va nous écouter. Et ma foi, Maps, si tu es toujours là, continue de nous écouter parce que je pense que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là, mais je ne te recommande pas la lecture de ce livre. Quoique, il y a beaucoup moins de personnages, j'ai l'impression, dans ce livre, dans ce livre-ci.
Oui, mais il n'est pas bon.
C'est tellement pas bon.
genre toutes les... Mais même le tome 5, oui, il y avait beaucoup de personnages puis tout, mais tu sais, comme le tome 5, pour moi, était sauvé par l'espèce d'intrigue qui nous faisait retomber dans un soap opéra avec les filles au camp des femmes, puis le gars qui... Puis Michael qui se ramasse sur le lac, puis tu sais, toutes ces affaires-là, là. Pour moi, c'est ça a sauvé ce roman-là parce que je suis retombée, parce qu'il y avait tellement d'affaires qui se passaient, tellement de choses qui se déboulaient, que ça, d'un coup, ça devenait intéressant. Mais le tome 6, il ne se passait rien, à part l'espèce de dilemme de... Enfin, non, c'est même pas un dilemme, là, genre, au premier tiers, on sait ce que Marianne va faire, c'est juste qu'elle n'ose pas le dire à Brian. C'est littéralement ça, là. À part le livre à faire comme « Ah, notre couple est fini », mais lui, il ne sait pas, puis il ne s'en rend pas compte, puis après ça, il essaie de le convaincre que leur couple est terminé, mais lui, c'est juste une claque en pleine face, parce que pour lui, ça allait... Depuis qu'il avait arrêté d'être infidèle, ça allait bien.
Oui.
Puis de l'autre bord, tu as Michael qui se retrouve pogné là-dedans parce qu'une partie des tensions entre lui et Tak, ça vient du fait qu'il est comme Marianne à l'utilise. Puis honnêtement, en tant qu'électrice, c'était comme oui, c'est ça. Là.
C'est
vraiment pas le fun.
Moi.
Comme tu as dit, Santo, il y a Anna Madrigal, puis mon nom, on les voit à peine. Hein.
Oui.
Genre, t'as un petit chapitre parti par là juste pour dire qu'ils ont une conclusion, entre guillemets. C'est tout, là.
Mais en même temps, il ne se passe pas grand-chose, là, de leur bord.
Ah,
là.
Je pense à rien, là.
Il ne se passe pas grand-chose. Mais, en fait, moi, ça, c'est la chose dont je me souvenais. Comme je te dis, les tomes 4, 5, 6, là, je les ai tellement lus rapidement que j'avais de la misère à départager quoi était dans lequel. Mais je me souvenais de la conclusion de Marianne, puis je me disais, mais quel je veux pas dire gaspillage, mais quelle façon de revirer un personnage qui était tellement agréable, qui était tellement sympathique, puis le faire virer en espèce de monstre carriériste, puis on le voyait déjà dans tome 4 que ça prenait cette tangente-là, mais rendue à la fin, rendue dans ce tome-ci, là, je la détestais, là. Je la détestais vraiment.
Mais parce que de la façon que c'est fait, c'est pas justifié. Genre, s'il y avait eu une tension émotionnelle quelconque de, tu sais, mettons, on sait que Brian était super infidèle super longtemps, là, tu sais. S'il y avait eu une tension émotionnelle quelconque par rapport à ça, tu sais, déjà, je pense que ça aurait mieux passé, mais il n'y avait aucunement ça à aucun moment, là.
Mais j'ai pas l'impression que ça a pesé dans la balance, là.
Non, pas, c'est ça. C'est ça que je dis. Il y avait eu une tension émotionnelle, peut-être, OK, mais là, c'était comme juste... Elle a-tu vraiment déjà voulu des enfants? Elle, non, pas tant. Elle voulait en avoir un parce que Brian en voulait un. Puis le Shona leur est tombé dans les bras comme par magie. Mais c'est comme... C'est lui qui s'en occupait, là.
Ouais.
Il y a comme bien des affaires que tu fais comme...
Toutes. On peut décortiquer toute cette affaire-là parce que pour vrai, je veux juste répondre à Maps qui nous envoie un message. Tu as dit fille adoptive de Marianne et Brian. Oui, c'est la fille de Connie, donc un personnage qui est décédé à la fin du tome 4. Elle avait demandé dans un testament, j'imagine, que Marianne et Brian s'occupent de sa fille. Dans le tome d'avant, elle n'était pas enceinte. Non, elle a essayé très fort en le trompant, en trompant Brian. Puis, finalement, et Brian et son amant sont tous les deux infertiles. Donc, c'est ça, ça n'avait pas marché. Donc, elle n'était pas enceinte, finalement. Et j'ai l'impression de faire un recap de soap, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, non, leur fille, c'est vraiment la fille, la mère biologique était Connie. Donc, mais c'est ça, l'affaire là, avec cette espèce de dilemme moral-là, c'est que premièrement, comme tu dis, on n'a pas l'impression qu'elle hésite. On a l'impression que dans sa tête, c'est clair que sa relation est finie. Puis elle utilise finalement ça comme excuse pour se sortir de cette situation-là. Mm-hmm. Et jamais, à aucun moment, elle dit... En fait, non seulement elle dit jamais à Brian... OK, ben moi, je m'en vais là. Si vous voulez suivre, ça va être là-bas. Ça se passe. Jamais. C'est clair dans sa tête qu'elle part seule et elle ne donne pas le choix à sa fille et à son mari. Donc, puis je veux dire, même s'il y avait divorce, et Dieu sait qu'il va y en avoir un, là, mais même s'il y avait divorce, parce que ça se passe pas bien, il y aurait quand même, tu sais, je veux dire, moi, je sais bien que je suis libraire. J'ai un enfant avec mon copain. Mettons qu'on se sépare, puis lui s'en va ailleurs. Je suis quand même juste libraire. Là. Je serais tenté de partir vivre dans cette nouvelle ville-là, puis de me trouver une job là-bas, puis d'être proche de mon enfant. Tu sais. Mais c'est ça.
J'ai l'impression qu'elle prend comme excuse le fait que il est pas à l'aise dans ce monde-là, donc c'est mieux pour lui de rester là, tu sais. Mais elle a-tu déjà fait un effort pour qu'il soit à l'aise dans ce monde-là? C'est comme...
Mais il n'est pas obligé d'en faire partie non plus. Il peut être en périphérie.
Mais elle a vu quelqu'un à son bras qui va être capable de fitter là-dedans. Là.
Oui, mais c'est ça. Mais non seulement ça, mais tu sais, en fait, c'est qu'elle... Ça reste sa décision à lui. Ouais. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est des excuses qu'elle se trouve pour justifier le fait qu'elle laisse ces deux-là derrière.
Ouais.
C'est vraiment un changement de personnalité dans ce personnage-là. Puis en fait, j'imagine que ça illustre comment la ville l'a influencé, comment l'industrie du divertissement l'a influencé, tout ça. Mais ça en fait un personnage vraiment détestable. Et ce qui m'a vraiment tué, c'est que t'en as parlé rapidement tantôt, c'est que avant d'en parler à Brian de ce choix-là, qu'elle a pris déjà elle-même pour tout le monde, elle va en parler à son ami Michael. Et là, ben Michael, il se retrouve dans une position où il sait quelque chose d'énorme. Puis là, Brian, en plus, il travaille avec Michael. On s'en souvient, ils travaillent ensemble à la serre. Puis là, Brian, il se retrouve à dire des choses comme « je me souviens pas exactement ce qu'il dit, mais tu sais, il prévoit partir à New York avec sa femme, puis c'est ça. » Puis là, Michael, pendant ce temps-là, il sait que ça se passera pas. Et là, éventuellement, parce que ça dure longtemps, puis il est vraiment pogné avec ce secret-là, il finit par le lui dire. Et là, Marianne se retourne contre lui. Et elle lui dit que c'est ça, il n'aurait pas dû faire ça, qu'il a joué contre elle, qu'il l'a trahi. Puis ça, c'est le moment qui m'a vraiment tué là, par rapport à ce personnage-là. Parce que c'est de la manipulation, puis c'est remettre tes fautes sur les épaules de quelqu'un d'autre, tu sais.
Parce que c'est Michael qui a fait la peine à Brian. Là. Genre, elle n'a aucune responsabilité dans la situation. Là.
Non. C'est
genre,
ça.
La façon qu'elle dit, là, c'est ça. Là. C'est comme Brian a de la peine, mais c'est parce que Michael y a dit. Parce que, tu sais, elle, c'est la décision qu'elle a prise. Non, c'est pas elle qui est à blâmer. Là.
Non, c'est ça. Mais c'est quand même. Tu sais. Je veux revenir sur ce que je disais, là, que, OK, c'est l'évolution du personnage, puis c'est le milieu de la télévision, puis tout ça, mais c'est tellement frustrant que je vois pas... Oui, c'est ça, hein?
Je pense que c'est parce qu'on voit pas cette évolution-là. Il y a un gros bond dans le temps entre le troisième temps et le quatrième, puis là, elle a complètement changé. Mais nous, on n'a pas vu cette évolution-là. Fait qu'on n'a pas... C'est ça qui manque quelque chose pour faire un lien entre Marianne dans le tome 3 et Marianne dans le tome 4. Pour expliquer l'évolution du personnage, puis le justifier, puis qu'on fasse comme « Ah, OK, c'est comme ça que ça s'est passé. » J'aime ça qu'il y a des moments, le côté soap opéra est tellement intense qu'on manque d'explications pour qu'on puisse faire comme. Tu sais, on n'aurait probablement pas plus aimé Marianne, genre, on n'aurait pas plus aimé cette métamorphose-là, mais je pense que si elle avait été mieux, si elle avait été amenée, si elle avait été expliquée, si on avait pu la voir, la fin du tome 6 aurait peut-être été, même si le tome 6, je pense même si dans la base, c'est comme, il n'y a pas moyen de rendre ce tome-là bon, honnêtement, là, mais genre, tu sais. Mais tu sais, la fin aurait peut-être été un petit peu plus. Pas satisfaisante, mais comme un peu moins tirée par les cheveux, mettons.
Ouais. Ouais. En fait, c'est parce que tu m'as rappelé l'aspect soap de l'affaire, puis c'est vrai que pendant pas mal tous les autres tomes, l'attrait ou ce qui faisait un peu le charme de la série, c'était justement les rebondissements, puis les trucs qui n'avaient pas de bon sens, puis l'humour qu'il y avait là-dedans. By the way, dans ce tome-ci, humour, zéro, là. Il y en a pas. C'est triste. C'est lourd. Mais c'est ça, fait, j'ai l'impression, comme tu dis, vu qu'on n'a pas eu cette évolution-là, que comme dans un soap, c'est quelqu'un qui enlève son masque, puis ah, 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 j'étais vilaine tout ce temps-là, tu sais. Ou, tu sais, là, les auteurs ne savent plus quoi faire avec le personnage, fait qu'on va la faire virer folle, tu sais. C'est quelque chose qu'on a vu souvent. Ou peut-être que j'écoute trop la semelle rose, là, c'est peut-être ça aussi. mais tu sais, c'est quelque chose qui se passe, là, à la télé. Fait que. C'est ça, je sens pas que c'est justifié, je sens pas que. Je veux lui en trouver des excuses, là, mais faut que je creuse. Là.
Ouais, faut chercher loin. Là.
Qu'est-ce que tu as pensé de la relation Michael Tack?
J'ai trouvé ça intéressant de ce côté-là. Mm-hmm. Parce que comme tu disais tantôt, avec les différences entre les personnages, parce qu'ils sont vraiment à deux moments complètement différents de leur vie.
Mm-hmm.
Puis je pense que, tu sais, comme Tak est très engagé, très militant, puis il veut que les choses changent. Puis j'ai l'impression que Michael a comme tellement vu les gens autour de lui mourir qu'il a comme, il a plus l'espoir que ça va changer, genre.
Mm-hmm.
Genre, comme, c'est juste, ah ben oui, c'est mes amis meurent, puis la société s'en calisse, puis comme, ça sert à rien d'essayer de faire quelque chose.
Moi, je lisais ça, là, puis je voyais beaucoup la relation, je faisais une corrélation avec les gays de mon âge aujourd'hui, mm-hmm. puis les jeunes de la communauté LGBT en général, là, qui, mm-hmm. sont plus jeunes, mettons, dans la vingtaine, mm-hmm. tu sais, mm-hmm. qui ont la vie devant eux, qui n'ont pas connu le sida. Ben, tu sais, le sida existe, mais.
C'est plus
ce que c'était, là.
Non, c'est ça, vraiment pas.
Puis, c'est ça, donc, ces jeunes-là qui se tiennent par la main dans l'école et qui se font pas battre à l'extérieur à cause de ça, ces jeunes-là mm-hmm. qui ont pas connu le sida, ces jeunes-là qui ont pas connu les guerres qu'on a menées. Tu sais, j'ai connu un monde où le mariage gay n'existait pas, là. On pouvait même pas en rêver de ça, là. Mm-hmm. Donc, puis je t'avoue, bien honnêtement, qu'à rendu à l'âge où je suis fatigué. Puis je suis fatigué. Puis autant que je suis envieux de ces jeunes-là qui peuvent vivre, qui peuvent être beaux, puis qui peuvent être qui ils sont, mm-hmm. autant j'ai envie de les brasser puis de leur dire « Hey, regardez ce qui s'est passé, là, comme quelques années avant que vous soyez en vie. » Tu sais, genre, j'ai vraiment envie de brasser ces jeunes-là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je lisais cette relation-là, puis j'étais comme... Je la comprends, mais c'est drôle que ça fasse écho autant aujourd'hui, avec ce que je vis aujourd'hui, mm-hmm. alors que ça a été écrit dans les années 80.
Mm-hmm. Ouais, moi, je comprends ce que tu veux dire.
Mm.
Mais c'est drôle parce que moi, c'est comme, tu sais, genre, quand des fois, je regarde, tu sais, je vais jouer à des choses, tu sais, comme je suis gosse, tu sais, je suis chronically online, fait que je vois bien les affaires passer. Puis, moi, c'est un peu le contraire, en fait, parce que ce que je vois, c'est que, d'un côté, c'est comme tu dis, j'aime ça voir, ne serait-ce que, tu sais, comme tous les livres qui existent, puis qui n'existaient pas quand tout le monde est adolescent, là, tu sais, parce que ça se fait pas, là. Mais, Mais de l'autre côté, des fois, j'ai l'impression que c'est accompagné d'une espèce. Alors, ici, c'est un peu le cas. C'est pas du tout le cas, parce que t'sais, Tac est très engagé, mais comme dans la vie en général, je pense que cette espèce de. Il y a une espèce d'insouciance puis d'inconscience aussi, un peu, chez les plus jeunes. Parce que c'est plus. Moi, en tout cas, pour moi, c'est pas. Parce que c'est pas ça. Dans le roman, je l'ai pas vu ça, mais ce que je vois beaucoup avec les plus jeunes, c'est que. T'sais, comme. Le sida, ça existe à peu près pas. Fait que l'idée de à quel point il a fallu se battre pour que certaines choses se passent, puis l'idée que ça pourrait leur être enlevé, ça leur passe pas par l'esprit, alors que là, c'est quelque chose de complètement différent pour moi.
C'est vrai, c'est vrai. Ben, tu sais, on n'a qu'à voir le droit à l'avortement qu'on a pris pour acquis pendant des années, puis qui est fragile, 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 puis on s'est rendu compte à quel point c'était fragile encore dernièrement. Donc, c'est ça. Donc, les droits qu'on a, effectivement, on les prend pour acquis, mais on ne devrait pas. Mais j'aime ça que tu parles de naïveté parce que c'est vrai, je pense que Tac a au moins, tu sais, il est dans son époque, là, puis il le voit, puis il est vraiment militant. Je pense que les jeunes sont militants aussi sur différentes choses, mais c'est ça. Moi, j'aimerais bien leur rappeler qu'on se
Des fois, c'est l'espèce de, tu sais, comme, tu regardes tous les commentaires, tu sais, juste là, juste dire, c'est comme, tu sais, tu vois souvent l'espèce de, ah, oh, mais il y a beaucoup plus de jeunes LGBT dans la nouvelle génération que maintenant chez les boomers, puis j'aurais tellement le goût de shaker tout le monde, puis de leur rappeler que la raison pour laquelle, par exemple, il y a pas beaucoup d'hommes gays chez les boomers, c'est parce qu'ils sont tous morts du
sont
sida dans les années
morts.
80.
C'est ça, là. C'est vraiment ça. Puis aussi, je voulais dire que même si très souvent dans la série, le personnage de Michael était l'espèce de. Il a souvent été le comic relief, le petit le fun. C'est lourd dans ce tome-ci, là. Je les comprends, les conflits avec son copain, mais c'est lourd à lire, là, parce qu'il y en a
Ah non,
beaucoup, puis ça revient souvent, là.
c'est difficile.
Puis tant qu'il a toutes les bonnes intentions du monde, là, il veut qu'il arrête de se laisser marcher sur les pieds, il veut changer le monde.
C'est parce qu'en plus, l'eau, ça vient encore plus tough, c'est parce que sur tes affaires, tu le vois aller, puis t'es comme, mais t'as qu'en raison.
Oui, c'est ça.
Tu sors quand il dit que Marianne t'utilise, il a raison, Calice.
Ouais.
C'est comme, je comprends que tu veux pas l'entendre, vu que ça fait 20 ans que c'est ton ami, là, mais genre, come on!
Ouais, je veux pas trop rentrer dans les détails personnels, là, mais j'ai été ce tac à un moment donné qui a réveillé quelqu'un avec qui j'ai été, qui avait une amie toxique, puis c'est l'amie toxique qui a gagné, et c'est moi qui ai fait mes valises. Je vais lire le message de Mavs, elle dit « Ça aurait été intéressant le développement psychologique de Marianne. » Je suis d'accord, mais là, à ce point-ci, je me demande qu'est-ce que l'auteur voulait faire avec ce tome-ci, parce que j'ai l'impression est-ce qu'il avait envie de l'écrire pour vrai? Parce qu'il me semble qu'il est tellement. Il est méchant avec tous ses personnages. Il les rend désagréables. Les situations sont pas le fun. Là, on est loin. Souvenez-vous là, des deux premiers tomes, là, à quel point c'était drôle. Puis hier, on avait des surprises. Puis c'était le fun. On n'est plus là, là. Puis tu sais, je comprends le tome 4 qui était le premier tome qui est arrivé après l'arrivée du sida, tu sais, je comprends, puis tu sais, je comprends que l'auteur, il était à un certain endroit dans sa tête, il a vu ses amis mourir autour de lui. Je comprends, là, je comprends. Mais il nous enlève tellement de joie, là.
Parce que l'affaire, c'est que tu sais qu'à la base, c'était la fin de la série. C'est tellement pas une bonne fin. Genre, c'est comme. À part peut-être Madame Madrigal, puis encore, on la voit tellement pas que ça n'a aucune résonance qui arrive.
Ben, justement, ça, c'est la dernière chose dont on a à parler, c'est l'intrigue de Anna Madrigal. Je veux juste dire que cruellement absente d'Or et Didi, J'aurais bien aimé avoir, surtout que, comme on l'a dit pendant des années, c'était le dernier tome, elles ne sont pas là du tout. Je pense qu'elles sont citées une fois. Mais j'aurais voulu les voir là une dernière fois. C'est des personnages que j'ai appris à aimer. Donc, c'est ça. Anna Madrigal et Mona se rejoignent. Donc, Mona quitte son manoir en Angleterre pour venir en Grèce avec sa mère. Et donc, c'est ça. Elles se retrouvent en Grèce, toutes les deux. Puis c'est ça, elle rencontre des gens, puis elle retourne chacun chez elle à la fin. C'est pas mal ce qui se passe. Il y a pas vraiment de mention au fait que le personnage d'Anna Madrigal est trans, puis c'est super correct, là, et ça venait pas jouer dans l'intrigue. Il n'y a pas de mention de ça.
Oui? J'ai quand même trouvé ça cool, le moment où... Où on est dans du point de vue de Mona, et que, tu sais, comme elle veut pas la mégenrer, mais clairement elle est pas capable de dire que c'est sa mère, fait qu'elle va utiliser her parent.
Ouais.
Ça, j'ai quand même trouvé ça nice, dans sa tête, elle est comme her parent.
Ouais. Oui, puis d'autant plus que c'est ça, là, c'est encore relativement nouveau dans sa vie, OK? Ça fait comme 10 ans qu'elle le sait. Mais c'est quand même nouveau dans sa vie, dans le sens qu'elle n'a pas grandi avec cette personne-là.
Non, c'est ça.
Puis, c'est le fun que Anna ait une petite idylle. Ça aurait été le fun de la voir. On nous l'a fait raconter un petit peu, mais pas vraiment. Mais en tout cas, apparemment, il s'est passé quelque chose avec quelqu'un peut-être.
Ouais.
Puis, de son côté, on a rencontré une femme, puis il s'est peut-être passé quelque chose avec elle, peut-être. Mais on ne sait pas. Puis après ça, chacun rentre chez eux. Ça finit de même. Ouais. Ça, c'est la conclusion de ces deux personnages-là. Oh, mon Dieu, c'est dur. Je veux lire le message de Wave 631 qui dit « Qu'est-ce que vous avez pensé du voyage en Grèce? » Si vous n'en avez pas déjà parlé, mais c'est ça qu'on est en train de dire, puis on n'a pas grand-chose à dire malheureusement là-dessus. As-tu quelque chose à dire?
Ça aurait
dire
pu.
Non.
C'est que ça aurait. C'est le genre de choses que, comme ça aurait pu être intéressant, mais il se passe rien, il crème. Genre, il se promène, puis il rencontre du monde, puis genre, il n'y a même pas un événement que tu peux faire. Ah, il s'est passé ça, tu sais. C'est vraiment juste des vacances typiques de genre un parent puis son enfant, là, tu sais, à l'âge adulte. Là, c'est comme. C'est ça. Ça aurait pu être n'importe quel personnage puis ça aurait changé fuck all. Là.
En fait, on aurait pu l'enlever puis ça aurait rien changé dans la vie de personne.
Ouais.
Puis c'est tellement décevant de la part d'un auteur qui nous a habitués à des sectes cannibales, le meurtre d'un pédophile, une madame qui se masturbe sur un toit qui s'avère être la mère de l'autre. Puis tu sais... C'est un auteur qui nous a habitués à des feux d'artifice. Puis je comprends que dans la dernière trilogie, il y en avait moins. C'est beaucoup plus, ça file beaucoup plus roman et on passe plus de temps avec les personnages, tout ça. Je comprends qu'il y en ait moins. Mais tu les envoies là-bas. Puis même en le lisant, là, je me disais, OK, j'ai peut-être mélangé avec le cinquième tome, mais c'est sûr que Dor et Didi vont être à Lesbos. Là, c'est leur place. Je les vois là. Puis il va se passer quelque chose, mais non. Il ne se passe rien. Puis, je me serais attendu à une révélation, à quelque chose. Non. Puis, même si ça avait été tiré par les cheveux, je veux dire, on est habitué à ça, là. Mais non, en fait, maintenant que j'y pense, je pense qu'il n'y a absolument rien de ce qu'il faisait. Il n'y a rien du plaisir des deux premiers tomes dans ce tome-ci. Il n'y a rien des révélations, il n'y a rien des dialogues, il n'y a rien des situations.
Puis les personnages sont comme soit inintéressants, soit carrément détestables.
Ah oui.
Comme, genre, t'as plus le goût de rooter pour eux autres. Là.
Non. C'est tellement... J'aimerais tellement ça... Puis je sais qu'il y a un documentaire sur l'auteur, je pense pas qu'il revient précisément sur ce livre-là. Mais j'aimerais tellement ça jaser avec pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête au moment d'écrire ce livre-là. Parce que j'ai l'impression, tu sais, je sais pas, je veux pas faire des suppositions, mais ça donne l'impression qu'il allait pas bien, là. Puis tu sais, je veux dire, en même temps, c'est correct, les artistes vivent des émotions, puis ils les expriment, puis tu sais, c'est correct. Mais c'est dur à recevoir là, comme public. Puis aussi, ajoutons à ça le fait qu'on lit ça 20 ans plus tard, là, 25 ans plus tard. Donc, tu sais, on a un décalage. On n'est pas dans le moment historique non plus.
Non,
Mais
c'est vrai.
c'est dur, là. Puis je pense à toutes les personnes, moi y compris, pour qui cette série-là, c'était exactement le contraire. C'était la série qui m'amenait du bonheur. C'était la série qui me faisait rire, qui me faisait être content d'être gay, qui me faisait être content d'être dans cet univers-là, tu sais. Puis tu fais un dernier tome qui est tellement dur à prendre, là. C'est lourd, c'est lourd. Puis là, soudainement, je me suis dit, ah ben, il y a peut-être une raison finalement pourquoi j'ai jamais lu les tomes suivants. Je pense que, tu sais, moi dans ma tête, j'avais fermé cette porte-là. Je me souvenais pas que c'était lourd à ce point-là, mais tu sais, j'avais fermé la porte là-dessus. Là, c'était terminé. Puis
Mais c'est comme je disais tantôt, tu sais, moi, c'était pas du fait que j'avais vu la série Netflix, puis que je sais vers quoi ça s'en va les 3 prochains tomes, puis que je sais que ça va être comme ça. Devrait en tout cas être plus intéressant si c'était
J'ai
pas
pas
de ça.
d'espoir.
Moi aussi. Mais si c'était pas de ça, genre, j'aurais absolument aucun intérêt à lire la suite. Genre, comme il y a absolument rien dans ce tome-là qui me aurait donné le goût d'ouvrir les suivants, là.
Ouais. Ben en fait, le prochain tome s'intitule Michael Tolliver est vivant, donc Michael Tolliver lives. Puis, juste avec le titre, j'ai vraiment l'impression que ça risque d'être beaucoup plus positif, tu sais. Puis, je suis pas mal sûr qu'il va être assez différent du mode dans lequel on est. Et non seulement ça, mais je me souviens qu'à la sortie, il arrêtait pas de dire en entrevue, là, non, 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 c'est pas un livre des Chroniques de San Francisco, là, c'est pas un livre de la série, c'est quelque chose d'autre, c'est autre chose. Ça... Mais finalement, je pense que la raison a gagné, puis il fait partie de la série, là, mais au moment de la sortie, je me souviens qu'il disait haut et fort que c'était pas un tome de la série. Donc, j'ai bon espoir qu'on s'en va ailleurs, là. Puis comme tu dis, moi aussi, j'ai vu la série Netflix, puis je retrouve le plaisir que j'avais dans les premiers tomes, là, dans cette série-là. Donc, j'ai bon espoir qu'il y a du bon qui s'en vient, mais ou que c'était dur à passer, là.
Mais justement, c'est une des raisons, comme je disais tantôt, mais la série Netflix, c'est une des raisons pour lesquelles je suis intéressée à aller voir les 3e tome, parce que ce qui me manquait, comme j'ai dit dans celui tantôt, c'était le côté un peu plus émotionnel, l'explication de pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Puis là, c'est comme mettons, on se ramasse dans pas le suivant, mais le 8e, qui va être Marianne qui revient à San Francisco après 20 ans après avoir tout planté, puis qui essaye de raviver sa relation avec plein de monde, dont sa fille. Je pense que là, clairement, tu peux pas passer à côté du côté émotionnel, là, tu sais.
Ouais. Mais en fait, c'est que là, j'ai hâte de voir dans le livre comment ça se passe parce que dans la série, ils ont été capables d'éclipser beaucoup de choses parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, là, tu sais. Je pense qu'ils ont fait en sorte que la nouvelle série, se tient en elle-même. Donc oui, elle fait suite aux séries précédentes, mais t'es pas obligé de les avoir vues, là, tu sais.
Non, c'est ça.
Puis, en fait, tu me rappelles un truc, c'est qu'à la fin de ce tome-ci, du sixième tome, il y a une longue scène où Marianne va remettre à Shauna les objets, la boîte qui appartenait à sa mère biologique, et elle lui explique qui était Connie, ce qui n'est pas dans la série. Parce que dans la série, quand elle arrive, il me semble que Shauna ne sait pas qu'elle est adoptée. Ça fait longtemps que je l'ai vu.
Ça fait longtemps, moi aussi, je me souviens pas.
Mais il me semble qu'il y a un épisode qui se termine avec un cliffhanger, genre, c'est qui ça, Connie? Puis,
ça se peut, ça se peut.
Fait que, c'est ça. Mm. Donc, je pense qu'il y a peut-être des trucs qu'ils ont changé, ou sinon, il y a un retcon à quelque part. Là. Puis, j'espère que c'est pas dans les livres, parce que là, tu peux changer des trucs dans une quand tu adaptes en série télé, mais revenir sur des trucs que tu as écrits dans les livres, là, ça me gossait. Mais c'est ça. Donc là, moi, je suis en train de me dire qu'il y a probablement des trucs qui ont changé. Fait que là, je suis comme doublement intéressant de lire les livres.
Mais j'ai regardé les résumés des trois vite, rapidement. Mm-hmm. Parce que comme je te dis, j'avais plus aucune envie de continuer cette série-là. Fait que je me suis dit, voir les résumés. Puis il y a des belles affaires que j'ai spotées, que c'est comme clairement, c'est ça vient, c'est peut-être de la série Netflix, comme des trucs de la série Netflix, c'est clairement vient de là. Fait que c'est comme, ça devrait être. Ben déjà, comme c'était tantôt qu'avec le 7e, on s'en va avec toujours d'autres qu'on te mange, ça va faire du bien parce qu'il était lourd, ce tombe-là.
Oh oui. Puis je t'avoue que j'étais comme. J'arrête-tu les lives là-dessus? Je pourrais choisir d'autres livres. Je pourrais choisir d'autres livres à lire. Mais je vous annonce que non, là, on va continuer. En janvier, on va lire le tome sur Michael. Puis on va commencer cette troisième trilogie-là. Mm-hmm. Et là, c'est quand même une série qui est une morte vivante. C'est un zombie parce que on pensait bien que c'était fini. J'imagine qu'il y a des gens qui ont lu le troisième tome pensaient que ça se terminait là. Après ça, on a une autre trilogie et là, à la fin du sixième, on pensait bien que ça allait finir là. Le septième, c'était pas censé être un tome de la série, mais finalement, il y a eu un 8 et un 9. Le 9, c'est sur Anna Madrigal. On s'imaginait bien que ça allait finir là. Puis là, cette année, il a publié un 10e livre. Donc, on la pense morte, mais elle revient tout le temps. Je suis bien curieux de lire ça, puis on se donnera rendez-vous, donc, si ça tente de le lire avec moi, le 7e, on viendra en parler, et j'espère qu'on va être beaucoup plus positif. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur Bye Bye Barbary Lane?
Non, je pense qu'on a fait le tour.
On a pas mal fait le tour. Je pense que le mot qui résume, c'est « grosse déception et lourdeur ». Maintenant, j'ai envie de savoir quelles recommandations culturelles tu as pour nous.
Alors, attends, je vais retrouver le titre, là. OK, donc, je vous parle encore d'un documentaire qui est disponible sur ici-tout.tv. Mm-hmm. Ça s'appelle « Mon ami Omar ». C'est un documentaire qui a été réalisé par un comédien québécois qui s'appelle Christian de la Cortina, qui est d'origine chilienne. Et dans le fond, le documentaire parle d'un travailleur étranger qui s'appelle Omar, qui s'est retrouvé dans une situation, dans une ferme où il vivait une situation de mauvais traitement. Et de tout à faire de même. Et c'est donc, c'est l'amitié qui est liée avec le comédien en question et comment lui a essayé de l'aider à se sortir de cette situation-là, les démarches, toutes les démarches qu'il fallait faire. Et en même temps, c'est un commentaire sur le système des permis de travail temporaires pour les travailleurs étrangers et les permis de travail fermés et comme il est dérape inhumaine à quel point où ça peut mener et pourquoi est-ce que beaucoup de gens qui insistent sur le fait que ce système-là ne fonctionne pas, il devrait être repensé complètement. Il y a deux versions de ce documentaire-là. Il y a une version en espagnol, sous-titrée en français, puis il y a une version doublée en français. Donc, vous pouvez regarder la version avec laquelle vous êtes plus à l'aise si vous voulez le regarder en langue originale avec les sous-titres ou si vous voulez carrément le voir en français, il a été doublé en français.
Ah, ben merci beaucoup de me parler de ça, parce que c'est vraiment un truc que, en tant que personne née au Québec, tu sais, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience, là, les visas de travail pour travailler au Québec, tu sais. Donc, je trouve ça bien intéressant. Merci beaucoup. Moi, le film, je vous amène ailleurs. Le film dont j'ai envie de vous parler, c'est, mon Dieu, j'ai oublié le nom de la réalisatrice, mais c'est pas grave. Tout le monde en parle en ce moment et pour une bonne raison, c'est The Substance. C'est un film d'horreur. Ce n'est pas un film de peur. C'est un film d'horreur. Les gens comparent beaucoup ça à ce que faisait David Cronenberg, par exemple. Donc, moi, j'ai envie de dire que oui, il y a un petit peu de David Cronenberg, un petit peu de David Lynch. Il y a quelque chose d'un peu surréaliste, tout ça. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'une femme qui atteint la cinquantaine. Le jour de ses 50 ans, elle a une émission un peu à la Jane Fonda, là, elle a une émission de gym, d'aérobic à la télé. Le jour de ses 50 ans, elle se fait dire, tu sais, il va être temps de passer à autre chose. Et donc, elle se fait renvoyer. Et là, elle décide de prendre une substance qui va dédoubler son corps. En fait, ça, il y a une nouvelle elle qui va sortir d'elle, une nouvelle elle plus jeune, plus belle, parfaite. Et cette nouvelle elle va se faire engager pour se remplacer elle-même finalement à la télé. Et ce qui est important à savoir avec cette substance-là, c'est que pendant 7 jours, la jeune peut faire ce qu'elle veut, là, elle est libre, mais après 7 jours, elle doit échanger de corps, donc switcher, reprendre le corps de la plus vieille et reprendre le corps de la plus jeune, reprendre le corps de la plus vieille, en fait. Et les gens qui gèrent la substance n'arrêtent pas de dire « N'oubliez pas, vous êtes une. » Puis là, il y a certaines choses qui se passent et là, il y a une... À un moment donné, le personnage de Demi Moore appelle le représentant de la substance, dit « Ben là, l'autre est en train de faire des choses. » Non, 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 pas l'autre. Vous êtes une. » Et on insiste beaucoup là-dessus. Et c'est ça que j'ai trouvé absolument fantastique de ce film-là, c'est que, oui, on parle des femmes, de la place des femmes rendues à 50 ans, soit à la télé, mais dans la vie en général, là, la vie amoureuse, dans la vie amoureuse, dans la vie sociale et tout ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on parle de notre relation avec notre corps et de la haine que nous avons contre nous-mêmes. Parce que, comme on le dit, donc, les deux sont une. Alors, c'est ça qui est très intéressant. La réalisatrice, les deux actrices sont phénoménal, elles ont aucune gêne. Demi Moore, elle joue 50 ans, mais je pense qu'elle est plus âgée que ça et on la voit là, on la voit nue. Non seulement on la voit nue, mais on la voit nue comme évachée sur un plancher de céramique blanc. Tu sais, on essaie pas de la rendre belle. Tu sais, c'est vraiment comme, et elle y va à fond, elle se jette dans ce rôle-là sans peur. Puis, il y a d'autres choses aussi qui arrivent dans le film dont je veux absolument pas parler, mais tu te dis, waouh, ces actrices-là ont vraiment beaucoup de courage pour avoir embarqué, sauté dans ce projet-là. Et la réalisatrice aussi, je veux la saluer parce qu'elle a réussi à faire quelque chose qui, pour moi, c'est ça que j'aime dans l'horreur, c'est quand on se sert de l'horreur pour parler des travers de la société. Et ce qu'elle a à dire avec ce livre-là est tellement important. Et la fin, c'était grandiose, inattendu, superbe. Il y a des gens qui ont quitté la salle. Et à la fin du film, il y a des gens qui ont applaudi. Puis là, c'était pas un film que j'ai vu au festival, là, au festival Fantasia ou quoi que ce soit. Là. J'étais dans une salle un mardi soir, dans une salle bien normale de Cinéplex, là. Puis les gens ont applaudi le film. Donc, c'est ça, c'est un film qui va faire réagir. On déteste ou on aime, moi j'ai absolument adoré, mais peu importe ce que vous en pensez, je pense que c'est toujours intéressant, puis c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'est toujours intéressant d'encourager et d'aller voir des films qui osent, des films qui sont un peu plus indépendants, des films qui n'ont pas nécessairement, qui ne profitent pas nécessairement de campagnes publicitaires monstres. Donc, aller voir ce film-là pour vrai, là, C'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est ce que j'avais à dire. C'était ma recommandation culturelle pour ce mois-ci. Le mois prochain, on va se retrouver, c'est le mois d'octobre, on va se retrouver pour parler de Shining. On commence un cycle de 3 épisodes avec Stephen King. Et il y a une raison pour ça, mais je vais vous en parler quand on aura lu de Shining. Je vous en parle au prochain épisode. Et sinon, on va se retrouver, comme je le disais, donc en janvier pour la suite des Chroniques de San Francisco. Et ben, je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Karine, d'avoir été avec moi. Merci de me suivre, t'es la survivante, là. T'es celle qui est encore là. Donc, merci beaucoup, puis bonne soirée à tout le monde.